Session de théologie à Rimont, sur Marie, le 24 avril 1994, 11e conférence par le Père Marie-Dominique Philippe.
Une excuse de ces petits changements d'heure, c'est que alors on vous l'a dit, on va faire un cours long plutôt que de faire deux petits cours. Alors ceux qui en auront par-dessus la tête au bout d'une heure, je m'arrêterai une minute pour qu'ils sortent. Pour le faire sans vergogne, ça ne me gênera pas du tout. Je suis habitué. À quel moment la première Eucharistie a-t-elle été célébrée? Le jeudi. Je sais très bien qu'on le discute aujourd'hui. On discutera jusqu'à la fin, on le verra parfaitement dans l'éternité. Selon l'évangile de Jean, ce que je crois être le plus véridique au point de vue précision temporelle, c'était toujours la grande vision du père Brodz, en disant quand il s'agit des précisions de date, c'est Jean, c'est le mystique, c'est celui qui précise le mieux. Les synoptiques, c'était des prédications. Jean, lui, il l'a vécu. Mathieu aussi l'a vécu, mais c'est... Et je crois qu'il a raison de dire que c'est l'évangile de Jean qui va... Vous voyez, la question, chasser les vendeurs du temple. Les synoptiques le mettent pratiquement à la fin. Ou, au moins, les deux tiers. C'est invraisemblable, c'est impossible. Quand on voit combien à Jérusalem, très vite, il y a eu l'opposition entre le Sanhédrin, les grands prêtres et le Christ. Comment voulez-vous, dans un climat de mécontentement, Jésus puisse faire ce geste? Ce serait d'une imprudence folle. Au début de sa vie apostolique, je comprends très bien. Première fois, il monte à Jérusalem. On comprend ça très bien. Mais après Cana, montrer l'exigence de l'adoration. La nouvelle alliance, une alliance d'amour, mais l'adoration demeure fondamentale. Alors, moi, je crois qu'il faut suivre Jean quand il s'agit de l'Eucharistie. Alors, dans l'évangile de Jean, c'est net. La Pâque est anticipée. Et Jésus meurt juste avant que la Pâque commence. Puisqu'il faut enlever les corps. Ça, c'est net. Il faut le faire vite pour respecter la Pâque. Puisque c'était la grande Pâque. Et respecter le Shabbat. Donc, vendredi, c'est possible autrement. Et le dernier repas, le repas d'adieu, c'est le jeudi. Jeudi soir. Je crois. Je vois pas, absolument pas qu'on puisse bouger ce que Saint Jean dit. C'est trop précis. C'est une netteté. J'adore l'évangile de Jean. Relisez. Depuis le début jusqu'à la fin, l'évangile de Jean. Vous savez, j'ai eu un professeur d'exégèse, je cite souvent cet exemple. On a eu trois cours sur Saint Jean, en tout et pour tout. Donc, je n'ai pas été beaucoup influencé quand j'étais étudiant. Trois cours sur Saint Jean. Premier cours, ne cherchez pas d'ordre dans l'évangile de Jean. Surtout pas. Donnez l'exemple. Très simple. Tenez, j'ai reçu la dissertation d'un étudiant. On était à ce moment-là au Saulchoir de Caen, en Belgique. Lorsqu'il rentre, la fenêtre était grande ouverte. Les feuilles s'en vont dans tous les sens. Il les ramasse. L'étudiant avait oublié de noter et de paginer. Alors il dit, chaque page est intelligente. Je ne cherche pas l'ordre. C'est l'évangile de Jean. Confusion entre le vent du nord et le souffle de l'Esprit Saint. Je crois que le souffle de l'Esprit Saint a son ordre propre. Tandis que le vent du nord, non. C'est chaotique. Comme tous les vents de la mer. C'est leur charme. Oui, et alors, à partir de ce moment-là, quand on est un bon étudiant, où ce que dit le professeur nous aide à aller plus loin, c'est un sycomore. Ou, au contraire, on n'est pas d'accord. On dit, ben, je vais montrer qu'il n'est pas d'accord. À ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible de dire que l'évangile de Jean n'a pas d'ordre. Puisque toutes les œuvres de Dieu impliquent ordre, poids et mesure. Selon l'Ecclésiaste. Parole qui a été reprise par saint Augustin, reprise par tous les pères et par Thomas d'Aquin. Toutes les œuvres de Dieu sont ordonnées. Dieu ne crée jamais le désordre. Il crée toutes choses ordonnées. Or, l'évangile de Jean, parmi les œuvres de Dieu, c'est Père Feuillet qui me l'a dit. C'est la plus belle des œuvres. Évidemment, la croix est plus belle, mais parmi les œuvres écrites. Donc, il y a sûrement un ordre. Et je me suis mis à chercher, comme un étudiant poussé par un professeur qui a dit une bêtise, veut montrer que le professeur n'aurait pas dû dire ça. Quand on cherche la vérité, il n'y a rien de tel pour vous mettre un petit peu dans l'irascible de la recherche. Et c'est bien ça. De temps en temps, on a envie de dire des bêtises pour que les étudiants se réveillent. Pour qu'à ce moment-là, on leur dira, ouais, mais c'est évident, je dis ça pour que vous cherchiez, vous comprenez. Il faisait ça aussi avec un peu de malice. Ce professeur, il est mort. J'ai cherché. Et quand on cherche, on trouve un ordre, mais pas du tout l'ordre de Descartes. Pas du tout un ordre logique. On découvre un ordre d'amour, un ordre de sagesse, un ordre admirable. Et je crois qu'on doit découvrir l'ordre dans l'évangile de Jean. C'est un évangile très ordonné, mais ordonné d'un ordre caché et très profond. philosophes qui ont lu 50 fois le livre Zeta d'Aristote, des métaphysiques, ou le dit d'Avicenne, pour comprendre. En sachant qu'il y a là quelque chose d'important. Je comprends ça, intellectuellement. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est la parole d'un père, c'est la parole d'un ami, c'est la parole d'un époux. C'est l'époux qui écrit ça pour son époux. Scientifique ne touche pas l'amour. Donc l'essentiel de la parole de Dieu n'est pas atteint par une méthode scientifique. L'essentiel de la parole de Dieu, c'est la parole d'un époux à son épouse. Et chacun d'entre nous, on est dans l'Église épouse du Christ, l'ami. Et saint Augustin va très loin. Il dit tant qu'on n'a pas compris que chaque parole de l'Écriture était pour nous un secret qui nous liait à Dieu, on n'a pas reçu la parole de Dieu. Et au fond, c'est ça la réalité. Et le jour où on comprend ça, la parole de Dieu, l'évangile de Jean devient quelque chose de merveilleux. Et l'Apocalypse devient quelque chose de merveilleux. On a des richesses qu'on met dans un coffre-fort. Choisi. vite cette parole. Et on la reprend tout le temps. On entend cette parole dite par Jésus. Et on la reçoit. Et cette parole transforme notre cœur en enfant bien-aimé de Marie. Ensuite, on demande à Marie de nous éduquer. Éducation de notre foi. Éducation de notre espérance. Éducation de notre charité. Et elle nous éduque merveilleusement. Ne jamais lire la parole de Dieu sans elle. Ne jamais faire oraison sans elle. Ne jamais recevoir telle ou telle nouvelle difficile à encaisser sans elle. Ou telle annonce joyeuse. Jamais la recevoir sans elle. Elle éduque notre espérance. Elle éduque notre amour. C'est la mère du bel amour. Elle nous apprend à aimer gratuitement. C'est Marie qui éduque nos vertus théologales. Et l'éducation chrétienne se fait en premier lieu par les vertus théologales. Il ne faut jamais l'oublier. Dans la crise d'aujourd'hui, si nos vertus théologales ne s'exercent pas avec Marie, nous risquons toujours d'être ballottés. Combien perdent la foi à partir de 15 ans aujourd'hui? 16 ans, 17 ans. Combien retrouvent la foi grâce à Marie à 23 ans, 24 ans? C'est merveilleux, ça. Ça. Et en même temps, ça doit nous faire comprendre qu'il ne faut pas perdre la foi, qu'il ne faut pas perdre l'espérance, qu'il faut perdre la charité, donc il faut tout de suite que Marie soit là. Et une mère éduque ses enfants chrétiennement en les éduquant dans cet amour pour Marie et en leur faisant comprendre que c'est Marie qui leur permet d'avoir une foi vivante, une espérance et une charité. C'est pour ça que le mystère de Marie pour nous aujourd'hui, je dis bien pour nous aujourd'hui, c'est la grande pédagogie de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de méthode de pédagogie divine, parce qu'il n'y a même pas de méthode de pédagogie humaine. C'est de la bêtise. Pas d'une méthode. Vous savez, on prend des méthodes pour allumer un fourneau au gaz. Alors très bien. Ça y est, des méthodes. Il y a des méthodes de logique. Et pas pour éduquer un enfant. Toute mère de famille sait que chaque enfant est particulier. On n'éduque pas de la même manière un garçon et une fille. Et parmi les garçons et les filles, chacun a son caractère propre. Ma mère s'amusait à dire, il y a les blonds et les bruns. Et c'est tout à fait différent comme éducation. Elle sait ça en blaguant pour qu'on comprenne que chacun était aimé d'une façon unique. Et c'est l'amour qui permet d'éduquer. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Absolument pas d'éducation. Et donc c'est à l'intérieur de l'amour qu'on doit faire ça. C'est là qu'on voit que la pédagogie ne peut, la psychologie ne peut pas vous donner une méthode d'éducation. On n'éduque pas négativement, on éduque positivement. Autrement, on fait dire voulait. On veut supprimer le refoulement et on l'augmente. Parce qu'on souligne les défauts. Ah, j'ai bien compris que ce défaut-là. Éduquer en montrant les défauts, c'est une mauvaise éducation. C'est l'éducation du pion. Et tout le monde sait qu'un pion n'éduque pas. Il donne des amendes. C'est pas la même chose. On éduque par l'amour. Et on ne peut éduquer que par l'amour. Alors il faut beaucoup d'intelligence dans l'amour. Beaucoup de perspicacité pour découvrir les qualités dominantes de chacun. Pour découvrir là où il pourra vraiment être lui-même le plus vite possible. Et à partir de là, on éduque. Il faut avoir le sens de ce que c'est que la personne humaine. Ça, c'est juste. On éduque en fonction de la personne humaine. Ce qu'on veut faire, c'est des personnes humaines. Et Marie le sait très bien. Je vous rappelais ce matin ce chapitre 12 qui nous révèle le noyau central de la lutte. Je n'émettrai une inimitié entre la femme et Satan et le serpent. réussite. Quelquefois, c'est très caché. Mais c'est tout le temps ça. Extrêmement curieux. Et c'est très visible, ça, quand on essaie de comprendre. Et là, voyez, l'Apocalypse nous le révèle. Alors, je vais continuer avec vous parce que je crois que c'est quand même très important. C'est très important de comprendre ça. Le démon attaque la femme pour tuer l'enfant. Alors, à tous les niveaux. Le démon aime de tuer. Le démon aime de montrer à Dieu que Dieu a eu tort de créer l'homme et la femme comme chef-d'œuvre. C'est une fragile faiblesse de son amour. Il n'aurait jamais dû faire ça. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'ange. C'est l'homme et la femme. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre de Dieu, un peu fêlés. Souvent très fêlés. Mais on est quand même chefs-d'œuvre. Moi, ça m'est égal. Oui, ça m'est égal. On voudrait bien que les choses ne soient pas fêlées. Mais quand vous voyez quelque chose d'admirable, ça a été brisé. Ah, les pièces sont belles. Et on garde les pièces. Maintenant, on fait ça. On a compris. Avant, on ne faisait pas ça. Maintenant, on le fait. Vous voyez, quand vous voyez dans une vieille église, un endroit où on a gardé un bas-relief du 15e siècle. Comme un étoureux, de voir une belle tête bas-relief du 15e siècle. Et que ça a été gardé. Comme un étoureux, de voir la plus belle. Au contraire, ça leur est égal. Ils sont nature. Ils sont nature. Tous ces êtres aimés de la Sainte Vierge, le reste. Ça m'est bien égal que les autres ne nous aiment pas. À quoi ? Ils ont mauvais goût. Alors à quoi ça me sert ? Ils ne savent pas découvrir les chefs-d'œuvre. Ça. Alors, voyez. colère des étoiles du ciel, le mépris du démon pour notre univers. Il ne regarde même pas les étoiles. Sa queue. Alors si les étoiles, c'est les théologiens, le démon aime de leur envoyer un bon coup de queue, hein, c'est extraordinaire, puis dégringole sur la Terre, c'est-à-dire la relativité à la contingence. ils n'eurent pas le dessus. Et on ne trouva plus leur place dans le ciel à cause de l'orgueil. Il n'y a pas de place dans le ciel pour l'orgueilleux. Et le dragon n'a pas voulu obéir à Dieu. Et il fut jeté, le dragon, et le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable, et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges jetés avec lui. Faut pas l'oublier, ça. Le démon ne peut pas rester dans la solitude. Vous savez ce passage de l'Écriture qui est si curieux, quand Jésus charge le démon de se muer. Le démon demande une grande grâce à Dieu de pouvoir aller dans les petits cochons. Ça s'invente pas. Moi, j'aurais jamais trouvé ça. Le démon demande d'aller dans les petits cochons. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le démon a perdu le silence de la contemplation et de l'adoration. Il ne peut plus rester seul. C'est un agité. Il vit dans l'agitation. Et il fait vivre les gens dans l'agitation. C'est le prince de l'agitation. Quand vous êtes agité, très souvent ça vient du démon. Parce que quand on est agité, vous savez bien, on dit certaines paroles qu'on ne dirait pas autrement. À quelqu'un qui vient tout s'ennuyer. Cette mère agitée, je me souviens, ça avait été dit comme ça. C'était à Genève. Mère qui était très nerveuse, très agitée, elle prépare sa valise pour le train, puis elle voit son fils de 10, de 4 ans, assis sur le divan, comme ça, le regardant sa mère. Ça veut dire, mais tu peux pas m'aider quand même. Lui répond, maman, quand tu le diras autrement, je viendrai t'aider. C'est merveilleux, ça. Il a visité ça dans l'agitation. Les enfants apprennent des tas de choses. Parce que c'est tellement vrai. Une mère qui demande dans l'agitation, l'enfant n'entre pas dans l'agitation. Il a le sens. C'est le démon qui est dans l'agitation. On le sait bien. Vous voyez, dans l'agitation, hein, vous êtes très pressé, et puis vous tombez sur un bouchon de toto. Il n'y a rien qui vous énerve plus. Hein. Vous êtes très pressé. C'est vrai. C'est énervant. On manque le train, on manque l'avion, et tout ça. La bêtise humaine. Le bouchon. Rien de plus bête. Et on peut jamais le prévoir. Alors à ce moment-là, il faut être très attentif. Ne pas se laisser prendre par le démon. Parce qu'on tombe dans l'agitation, on perd du temps. Alors que si on était vraiment chrétien, on serait 5 minutes de silence auprès de Jésus. Pas mal, hein? Pas commode à dire. Et j'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait, c'est à présent le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On est accusé, c'est le rapporteur, le démon. On est accusé auprès de Dieu par le démon. On voit très bien ce ricanement du démon. Chef d'œuvre de Dieu, mais regarde ce qu'il est. Pas meilleur qu'un autre. Alors, pas meilleur qu'un autre. Et alors, il enlève toute l'espérance. Et vous avez remarqué, hein, et ça c'est très important, il y a 3 noms du démon. Selon l'Apocalypse ici, il y a le serpent antique. Il y a le dragon, le grand dragon. Il y a le Satan, celui qui égare le monde. Alors, je crois, c'est l'anti-trinité. Le démon a perdu la foi. Alors, il avait été créé avec la foi. Il a perdu la foi en désobéissant. Il a perdu la grâce. Alors, il devient anti-trinitaire. Le serpent, c'est l'antiverbe. Vous comprenez bien. Le dragon, c'est l'antipère, la puissance. Ah, c'est lui. Le pot de confiture, c'est lui qui l'a brûlé. Oui, il avait mangé l'autre et puis l'autre a enlevé la couverture. Le pot. Alors c'est lui qui l'a pris. C'est tout le temps comme ça, l'accusateur. C'est très important de voir cette vision dans l'Apocalypse, cette vision du démon. Et le démon a cette place importante. Il est trois. Alors vous voyez ici. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, en son lieu, là où elle est nourrie un temps et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent jeta de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint au secours de la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon se mit en colère contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. L'eau, c'est le symbolisme de la vie. elle ouvrit et le fleuve, jeté par le dragon, jeté par le serpent, est englouti. Quand vous êtes en face des progrès les plus extraordinaires de la science, regardez la puissance de l'océan, la côte sauvage, la Bretagne. Bien d'être la banane de bière, un coup de sauvage. J'ai raison là. On ne dormirait pas. La coup de sauvage. Un orage. Une montagne. Un glacier. La nature. La terre. La terre vient au secours de la femme. Parce qu'elle montre que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez ce que dit Nietzsche ? Nietzsche dit, quand je suis dans la ville, quand je vois tout ce qu'il y a comme chose extraordinaire dans une ville d'aujourd'hui, je dis l'homme, son génie, sa science, sa technique. Quand je suis au désert, quand je suis en face de la montagne, en face de l'océan, je dis Dieu. La terre va au secours de la femme. C'est ça que vous essayez de comprendre. Et je crois très fort, ça. Comprendre. Une petite fleur. Je sais bien qu'actuellement, on arrive à en faire chimiquement, mais ça ne sent pas de la même façon.
Un étudiant qui était avec Mono et voilà.
pas venir tous les jours réciter quelques psaumes avec moi. Je suis juif. J'aime les psaumes. Mais c'est évident. Nous les récitons nous aussi. Je viendrai tous les jours réciter les psaumes avec vous. Puis quelques jours avant sa mort, elle a dit à cette sœur, est-ce qu'après ma mort, on pourrait dire une messe pour moi? J'aime tellement la messe. C'est si grand. Alors la sœur a dit, mais c'est évident, on dira la messe pour vous. Elle a rien ajouté, bien que je ne sois pas catholique, ça n'a pas d'importance.
Personne.
témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. C'est très curieux, hein? Il y a très peu de livres de l'écriture où il est dit heureux celui qui le lit, et personne ne le lit. Il y a combien de chrétiens qui ont lu l'Apocalypse, sérieusement, comme le livre le plus intelligent qui est à leur portée? Il est dit heureux celui qui le lit. Hein? Je dis simplement ça, si vous voulez tout relisez l'Apocalypse. Dans 40 ans, on se reverra. Et vous verrez, la seule chose qui me sauvait en officiat, c'était de lire l'Apocalypse. Parce que j'avais vu qu'il était heureux. En officiat, il y a des moments durs. Hein. Alors quand on lit l'Apocalypse, on ressort complètement transformé. Parce qu'on voit que les petites piqûres de bec, de bêtes qui peuvent arriver au noviciat, les guêpes qui viennent nous piquer, c'est pas grand chose. À côté de la grande lutte. Alors tout se relativise. Et on est engagé dans cette grande lutte. Alors voyez bien, cette révélation de Jésus-Christ, elle est transmise à Jean par l'envoi de son ange. Alors je me suis posé la question, quel est cet ange? Posez-vous la question, quel est cet ange? L'ange, c'est le messager, c'est l'intermédiaire, c'est l'envoyé de Dieu. Marie est la reine des anges. Marie a été donnée à Jean à la croix. Alors elle est cachée. Alors je crois que c'est Marie, la reine des anges. Et toute l'Apocalypse est transmise à Jean par la médiation de Marie. Alors si on lit l'Apocalypse de cette manière, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Et ça me semble tellement élémentaire. Posez-vous la question, voyez. Qui ça peut être pour éclairer Jean dans une vision aussi importante que l'Apocalypse? C'est pas n'importe quel ange, quoi. Le dernier venu, celui qui n'est pas encore employé, non, c'est la reine des anges. Avec Jean, il peut y être que ça. Premier petit passage. Mais une fois qu'on a ça, on a une clé pour lire l'Apocalypse. Parce qu'on voit que Marie intervient constamment. Elle est la reine des anges. Et l'Apocalypse, c'est le grand livre qui ne cesse de parler des envoyés, des envoyés. Jean, dans son évangile, regarde Jésus comme l'envoyé du Père. Donc l'ange du Père. L'ange de Yahvé. L'ange du Père. Il est l'envoyé. Regardez cet autre passage. Alors là, c'est un peu plus corsé. Mais c'est merveilleux. Je trouve ça. Je vous avais dit l'Apocalypse. On pourrait passer l'heure. Hein, parce que c'est tellement important de voir ce qui nous est montré dans l'Apocalypse. Alors, c'est la fin 14-14. Donc on est déjà dans la partie dernière du jugement. Le jugement dernier. Et je vis. 14-14, facile à retenir. Et je vis.